Salut à tous, heureux de vous retrouver dans le bistrot du vélo. Pendant le Giro, on décalera un petit peu l'horaire pour vous permettre de suivre la fin de l'étape, les rois de la pédale, et de suivre le bistrot du vélo. Ce sera donc à 18h tous les lundis. On va regarder le menu du jour tout de suite avant d'accueillir notre invité, Antipasti, à l'italienne bien entendu, délice du printemps. On parlera d'une équipe qui a gagné beaucoup de victoires dans ce début de printemps, c'est la Groupama FDJ, et on parlera du chevrotin de Mélisée, cette spécialité de fromage de chèvre fabriqué à Mélisée. Oui, on parlera un petit peu de Thibaut Pinot également, avec le manager de la Groupama FDJ qui nous fait l'amitié et le plaisir d'être avec nous. C'est Marc Madiot qui est dans le bistrot du vélo. Marc, comment ça va, Marc Madiot?
Ça va plutôt bien. Bonjour à tous et toutes.
Alors, Marc, on a fait un petit truc. Normalement, quand il y a un coureur qui vient, on fait une fiche pour rappeler son palmarès. Mais on a fait la même chose pour vous, pour les plus jeunes, pour votre fiston. Parce que je ne suis pas sûr que le fiston, il connaisse tout le palmarès. Marc Madiot, c'est quand même 2 victoires sur Paris-Roubaix. Bon, il est né un 16 avril, ça c'est très bien. À Renazé, bon, il aurait pu faire mieux, mais c'est comme ça. Champion de France également en 1987. 8e du Tour de France en 83. Une étape sur le Tour, une étape sur Paris-Nice, une étape sur Tirreno-Adriatico, le Grand Prix de Wallonie, le Grand Prix de Plumelec. J'ai regardé, en fait, vous avez gagné en France, en Belgique et en Italie. C'est ça, jamais ailleurs. Hein.
J'ai pas beaucoup couru ailleurs en fait. C'est en ça. Espagne, très peu. Et à l'époque, on n'allait pas trop au-delà de la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne. Sinon, ça devenait des expéditions.
La plus belle de toutes ces victoires, Paris-Roubaix, le titre de champion de France, je sais que ça c'est important pour vous.
Bah, toutes ont eu leur importance au moment où elles se sont produites. Hein, donc, j'ai du mal à en ressortir une par rapport à une autre.
Bon, on va regarder quelques images du Giro. C'était tout à l'heure, 3e étape et une victoire inattendue, celle de Taco van den Horn. Il s'impose en solitaire. Il y avait d'ailleurs un coureur de l'équipe Groupama FDJ à l'avant, c'était Lars van den Horn. Taco qui va aller offrir sa première victoire à l'équipe Intermarché ou Anti-Gobert sur un grand tour. 24 heures après la première victoire de l'équipe Alpecin, ça c'était grâce à Tim Merlier. C'était une étape très intéressante. Et ce qui est étonnant, Marc, c'est de voir un échappé aller au bout dès la 3e étape. Ce n'est pas toujours le cas dans les grands tours.
Non, c'est rarement le cas même. Mais c'est bien. Je trouve qu'on a vécu un beau final d'étape. Il y avait du suspense. Et pour une fois, les audacieux sont récompensés avec la victoire pour l'un des échappés. Donc, c'est bien. Moi, je trouve ça bien.
Lars van den Berg, il était dans cette échappée, il a grandi hein, dans la continentale. Il est passé maintenant en pro depuis 2 saisons, en même temps qu'il y avait qui dans sa génération. Je pense qu'il doit y avoir, j'ai un petit doute, Stewart, je pense qu'il est passé pro avec lui.
Voilà. Ils viennent de passer pro. Hein. Ils viennent de passer
pro. C'était le but, les emmener, ces jeunes. L'équipe était construite autour de Thibaut pour apprendre et pour aller devant, pour voir comment ça se passe, pour se faire une culture des grands tours en fait.
Oui, en fait, on essaie de les mettre en formation accélérée, tous ces garçons. Le fait que Thibaut n'ait pas pu prendre le départ du Giro a libéré une place. On a un petit peu restructuré l'équipe différemment, ce qui a permis à Lars de prendre le départ de ce Giro. Et il fait plutôt une belle entrée, assez réussie, ma foi, avec cette belle journée qu'il a passée à l'avant. Bon, on aurait préféré qu'il soit avec le vainqueur du jour, mais je pense qu'il a beaucoup appris aujourd'hui sur la gestion d'une échappée au long cours.
C'est un coureur qui a plutôt un profil de grimpeur, hein, le Néerlandais. Vous l'aviez repéré, j'imagine, sur le Tour de l'Avenir. Il avait fait un top 10 au général sur quelques cours chez les jeunes. Plutôt un profil de grimpeur.
Plutôt puncher grimpeur, mais il a une belle petite santé, il a un bon mental, il est motivé et on ne désespère pas d'en faire un bon coureur.
Objectif, une victoire d'étape,
pour l'équipe,
c'est le minima, oui. Ouais, pour la Groupama FDJ sur ce Giro.
Le minima, on n'y parvient pas toujours, mais l'objectif du Giro pour cette année en l'absence de Thibaut, c'est d'aller chercher une victoire d'étape, puis un bon comportement général. Ce qui est intéressant aussi et important, c'est la façon dont les coureurs vont... Bon, gérer cette course, j'ai envie qu'ils prennent des initiatives, alors même si elles ne sont pas toujours couronnées de succès. Ce qui est important, c'est d'être, comme on dit, dans le match et d'être acteur et actif. Et j'espère que ce sera le cas sur un bon nombre d'étapes à chaque fois qu'on en aura l'occasion.
Il y en a un qui est tout sourire, c'est Rudy Mola. Il nous a dit j'ai pris la place de Thibaut Pinot. Je vais taper sa chambre, je lui ai pris le masseur. Vous pensez qu'il peut avoir les mêmes résultats? Est-ce que Rudy va jouer le classement général?
Bah, il va s'accrocher auprès des plus forts le plus longtemps possible. Mais Rudy, c'est aussi un coureur assez opportuniste. Il l'avait démontré sur la Vuelta en étant leader pendant plusieurs étapes. Il a un bon sens de la course qui lui avait permis de gagner une étape sur Paris-Nice il y a quelques années.
Avance.
Donc, on n'espère pas de le voir à l'avant d'une étape et concrétiser avec un succès. Ce serait bien.
Est-ce qu'il y a un coureur que tu surveilles un petit peu plus que les autres dans ce Giro? Je ne pense pas au tien, les groupes AMA-FDJ. Bah, je pense à un que tout le monde a envie de regarder, Remco Evenepoel. Tu as suivi le départ de la petite promesse.
Comment?
Remco, tu as suivi son départ. J'imagine que voilà, le manager général de la groupe AMA-FDJ, comme tout le milieu du cyclisme, a envie de voir ce qu'il peut faire sur son premier grand tour.
Oui, effectivement, on est assez curieux de voir ce que ça va donner sur ce Giro. Mais je pense pas que, à part si il vient à gagner le Giro, bien évidemment, mais il n'y aura pas de conclusion définitive sur le potentiel du coureur qui est assez extraordinaire et assez particulier. Il a aussi une forme d'arrogance assez exceptionnelle pour son âge. Donc, tout cela va être intéressant à observer.
C'est quoi l'arrogance quand tu parles d'arrogance? Je saisis pas.
C'est-à-dire qu'il doute de peu de choses. Il prend des positions, il répond avec un certain aplomb. Donc, je demande à voir dans le temps.
Jackie parlait de non-culture du vélo chez Remco Evenepoel, et c'est peut-être aussi ça son arrogance. Bah,
non-culture, le papa a quand même été coureur. Hein.
Oui, et c'est vrai que le papa a fait une belle carrière, qui s'est arrêtée un petit peu trop tôt, d'ailleurs, la carrière du papa. Mais c'est vrai que lui, il a commencé par le football, il n'a peut-être pas les codes du peloton.
Oui, il a sûrement un minimum de culture, je pense, quand même. Enfin, je ne sais pas, je le connais pas suffisamment, mais en général, quand le papa a été coureur professionnel, il y a forcément des approches du métier que l'on retrouve chez le fils.
On te demande, est-ce qu'un Tour de France avec du public, tu y crois plutôt optimiste? On a l'impression que ça va mieux. En tout cas, si l'on suit ce qui a été mis en place, le plan de déconfinement du gouvernement, on rappelle que le Tour de France partira fin juin, on devrait avoir la chance d'avoir du public sur le Tour.
Bah, le public, il y aura peut-être des jauges au départ et aux arrivées, mais le long des étapes, au fil des kilomètres, dans les traversées de villages et en race campagne, je pense qu'on aura le public à peu près de manière normale. La course en elle-même, le peloton des coureurs et les structures d'équipe, à mon avis, on est parti pour refaire un tour comme l'année dernière, notamment avec la bulle où on sera à l'isolement quasi total pendant 3 semaines. C'est un peu le schéma qui semble vouloir se dégager. Maintenant, on va attendre les dernières instructions qui ne manqueront pas de venir dans les prochaines semaines, parce qu'on est encore un peu éloigné du départ du Tour. Donc, on peut espérer et souhaiter que la situation sanitaire permette d'ouvrir un tout petit peu les vannes. Je pense qu'au niveau du public, c'est raisonnable de penser qu'il y aura une ouverture pour le public. En ce qui concerne les équipes, je n'y crois pas trop. Je pense qu'on sera un peu dans le même modèle qu'on a eu l'année dernière. Parce que le fait qu'on soit vacciné ou pas n'aura pas une grande incidence par rapport aux gestes barrières. Donc, je vois mal l'ensemble du peloton vacciné, je vois mal l'ensemble des membres d'équipe vaccinés et je vois mal l'organisation et surtout l'UCI ouvrir les vannes à tout le monde comme si de rien n'était par rapport à la course. Donc, je m'attends plutôt à une continuité de ce qu'on a connu entre l'année dernière et cette année, avec peut-être davantage de public sur le bord des routes.
Hâte de traverser la Mayenne, on nous pose la question sur les routes du Tour de France, puisque oui, le Tour de France passera en Mayenne cette année.
J'ai surtout envie que le public mayennais en profite, parce qu'il y a très longtemps que le Tour ne s'est pas arrêté en Mayenne. Et si en plus il n'y avait pas cette possibilité et ce plaisir d'être sur le bord de la route en Mayenne, que ce soit sur le lieu de départ et le lieu d'arrivée, ce serait une vraie frustration. Et je pense que ça obligerait, je dis bien ça obligerait, Christian Prudhomme à revenir très vite en Mayenne dans de vraies et bonnes conditions, parce que on peut pas oublier ce département en ne venant pas à répétition et la fois où on vient qu'il n'y ait pas le public. Donc,
quel joueur
faut vraiment qu'on puisse en profiter.
Toujours un coup d'avance, hein, Marc Madiot. Pas encore fait, mais tu mets déjà la pression à Christian.
Je suis obligé de lui mettre la pression. S'il n'y a pas le public cette année, ça ne sera pas de la faute de Christian, bien évidemment. Mais s'il n'y a pas le public, il faudra qu'il revienne. Ça, c'est obligatoire et inéluctable.
De bonnes nouvelles, on va faire un point sur le Mondomètre. Le Mondomètre, c'est le classement des victoires des équipes pour le tour. Et on va voir que la meilleure équipe française, c'est tout simplement la Groupama FDJ. On a enchaîné les victoires, on disait le beau printemps de la Groupama FDJ. Il y a eu victoire pour Godu sur le Pays Basque, victoire pour Arnaud Démare, 2 à Valence, victoire de Stephen Kung, le chrono et le général, victoire aussi à Valence de Miles Cutson. Vous êtes dans le peloton de tête, loin devant les autres équipes françaises. Content de ce mois d'avril, parce qu'on s'était eu au téléphone un petit peu avant. Il n'était pas forcément content du début de saison de ces hommes, Marc. Là, on sent que c'est reparti à la hausse et que tout le monde a mis le bleu de chauffe.
On avait plutôt eu une bonne entame de saison. Après, on a eu un petit coup de mou. C'était moins bien que ce que l'on souhaitait ou espérait. Ensuite, on est bien reparti. Donc, on a plutôt bien terminé la campagne des classiques, puisqu'on a fait notre premier podium sur Liège-Bastogne-Liège. Donc là, moi, j'attends maintenant des résultats dans les prochains jours et semaines, ou sur le Giro, ou surtout dans les courses Coupe de France qui vont arriver, les boucles de la Mayenne et le Dauphiné, qui nous emmèneront au championnat de France. Et ensuite, ce sera le Tour. Donc, moi, j'attends que le compteur tourne.
Alors justement, le Tour, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont les hommes du Tour qui se mettent en évidence. David Godu avait très bien fini la saison dernière, victoire à la Vuelta, mais il enchaîne avec une victoire au Pays Basque. David Godu qui sera le leader annoncé, hein, on le rappelle, dans cette équipe Groupama FDJ, mais ça c'était avant, je vous reposerai la question. C'est bien de voir que cette équipe du Tour se met en place. David, victoire pour Arnaud Démare, on imagine que Stephen Kung également sera sur le prochain Tour de France. Ça, c'est très très intéressant avant la grande fête de juin-juillet.
On sait que ce sont des coureurs qui ont le potentiel pour briller au plus haut niveau, chacun dans leur registre. Donc oui, on espère avoir une grosse équipe pour le Tour de France. On a une petite revanche à prendre avec le Tour par rapport à ce qui s'est passé pour nous l'année dernière.
Et même l'année d'avant.
Comment ?
Et même l'année d'avant.
Bon, y a l'année d'avant, c'était un peu différent. On avait quand même eu l'occasion de se mettre plus qu'en évidence. L'an dernier, il y a eu la frustration et la déception d'être hors course dès le premier jour. Donc, il faut digérer tout cela. Et là, on arrivera avec de vraies et belles ambitions sur le Tour de cette année.
Et peut-être encore champion de France, il garde son maillot. Arnaud Démare qui a retrouvé ses capacités à enchaîner les victoires. Ça, c'est très important, bien entendu, à l'approche du Tour de France. Pour l'instant, Arnaud, sur le Tour, c'est une victoire. Hein, on s'en souvient, c'était à Vittel. Là, il en a enchaîné pas mal.
Non, deux.
Vittel et il m'en manque une.
Pau,
exact. Pau, oui, j'avais oublié Pau. Deux victoires, pardon. Heureusement que tu les comptes toutes les victoires de la Groupama.
J'espère avoir un peu de mémoire pour ces trucs-là.
Oui, ouais, c'est plus facile. Tout est en place pour Arnaud, son train, on le sait. Tu regardes, j'imagine, ce qui se fait chez les autres, avec Sam Bennett, avec les meilleurs sprinteurs de ce début de saison. Tu le situes où, Arnaud ?
Moi, je pense qu'il est dans le top 5, voire top 3 mondial en matière de sprint quand il est dans la pleine possession de ses moyens. Donc, on espère être vraiment dans les matchs des sprints sur le Tour, oui, évidemment.
Stephen Kung, il y sera aussi au Tour de France ?
Bah, Kung, il a un rôle à jouer à beaucoup de niveaux dans l'équipe. Hein. On sait que dans le vent, c'est un coureur qui a de la puissance. Il est capable de faire des bons chronos. Le chrono en Mayenne devrait lui convenir. Donc oui, j'attends beaucoup de Stéphane, notamment sur l'étape en Mayenne.
Avec son beau maillot hein, de champion d'Europe de l'exercice, il a remporté le chrono du Tour de Valence. On le rappelle, Stéphane Kung, qui sait pratiquement tout faire. Hein. C'est un coéquipier parfait lorsque vous êtes en pleine, capable aussi de jouer sa carte personnelle. Ça fait un petit moment qu'il a, lui, il n'a pas été formé au sein de la Groupama FDJ. Vous avez mis en place l'équipe continentale. Et puis là, ça y est, les jeunes commencent à monter, ils passent pro. On est allé chercher des étrangers, je pense à Jack Stewart, je pense également à Scottson qui lui aussi s'est imposé. On a vu Lars Vandenberg. Tu en passes quoi là de cette première, on va dire, génération de l'équipe Conti qui arrive au plus haut niveau? Satisfait.
La Conti, pour nous, c'est une belle satisfaction. Hein. Presque d'entrée de jeu, elle a permis de produire des coureurs opérationnels au plus haut niveau. Donc, il y a une vraie émulation au niveau de la Conti. Et surtout, ça nous permet de gagner du temps dans le développement et l'apprentissage des coureurs. Les coureurs qui passent de la Conti dans la World Tour, quand ils arrivent dans la World Tour, il n'y a presque plus rien à leur apprendre. Ils ont déjà eu la chance de pouvoir côtoyer la World Team en de multiples occasions, parce qu'on a cette possibilité que nous offre le règlement de les faire courir avec la World Tour. Donc, c'est un avantage non négligeable que de permettre à des coureurs de se situer et d'appréhender la vie du World Tour, parce qu'ils viennent de la Conti et à intervalles réguliers sur toute l'année, on peut les faire monter d'un cran. Donc, ça, c'est très intéressant pour nous. Ça nous permet d'avoir une bonne appréciation sur le devenir de chacun de nos jeunes coureurs. Et puis pour eux, c'est une vraie stimulation parce qu'ils sont au contact direct du plus haut niveau, tout en étant déjà dans l'antichambre de l'équipe. Donc pour nous, c'est une belle opération, ça fonctionne bien et on va continuer à développer tout cela dans les prochaines semaines et mois avec des jeunes coureurs qu'on a déjà repérés chez les juniors notamment.
Ça permet de gagner du temps parce qu'on voit que les choses vont de plus en plus vite en vélo. Aujourd'hui, on avait Andri Ponomar échappé sur les routes du Giro, 18 balais le môme.
Oui, et puis surtout…
Quel regard tu portes là-dessus ? Toi qui fais partie…
Le temps perdu ne se rattrape jamais.
C'est ça.
Il faut être prêt de plus en plus tôt. Et les années charnières de 18 à 20, 21, 22 ans, c'est les années où on progresse le plus et le plus rapidement. Donc, il ne faut pas les louper. Et quand on disait à un jeune coureur, tu as le temps, non, on n'a pas le temps. Il faut avancer très vite. Il faut avancer très vite parce que les bons automatismes et les bons développements que l'on va avoir à 18 ans seront nettement plus bénéfiques que ceux qu'on fera à 25 ou 26 ans.
Alors, une question. Est-ce que c'était finalement la règle qui avant empêchait les coureurs de participer aux grandes courses quand on était jeune? En gros, est-ce que les anciens étaient installés et justement dit « t'as le temps ».
Et toi, non, parce que vous avez juste à regarder la composition de mon équipe en 1997. J'avais deux coureurs de 19 ans qui ont signé dans l'équipe, qui s'appelaient Jean-Patrick Nazon et Nicolas Vaugondy. Et au moment où je les avais fait signer, je m'en suis pris plein la tête. On me disait, oui, ils sont trop jeunes, ils ne feront pas carrière, ils ne réussiront pas. C'est les envoyer à l'abattoir. Et je vous rappelle quand même que Vaugondy a été deux fois champion de France, que Nazon a été maillot jaune sur le tour et qu'il a gagné des étapes sur le Tour de France, notamment les Champs-Élysées. Donc, vous voyez, ils ont plutôt fait carrière les deux. Donc, non, on était déjà dans ce modèle-là il y a une vingtaine d'années. Ça s'est intensifié aussi parce que je pense qu'aujourd'hui, physiquement, les jeunes sont beaucoup plus vite à maturité que ce qu'on ne l'était nous dans nos générations par le passé.
Pourquoi ? Parce que plus sérieux, je ne dis pas que vous étiez pas sérieux, mais aujourd'hui, on est devenu plus sérieux en tout et dans la préparation notamment des sports.
Aujourd'hui, on maîtrise mieux et on accompagne mieux le développement et la préparation physique des coureurs. Ça, c'est une évidence. On est capable de mieux cerner le développement du coureur, quel que soit son âge, beaucoup plus vite. Et on intervient dans des mesures beaucoup plus larges. Donc, on gagne facilement du temps. Et on le voit bien d'ailleurs. OK, Evenepoel est un coureur d'exception, mais il y a quand même beaucoup de jeunes coureurs qui arrivent très rapidement sur le devant de la scène sans pour autant être des Evenepoel.
Alors là, tu nous parles de tes années manager. Là, on me dit, ouais, c'est bizarre parce que Marc Madiot, quand il était leader d'une équipe, il ne voulait pas de jeunes dans son équipe.
J'ai jamais dit ça. Non, mais c'est n'importe quoi.
C'est une bêtise.
Ah oui.
Bon. Alors, 40 ans après, tiens, autre question, genre bêtise. Il en pense quoi, Marc Madiot, du vélo féminin qui a beaucoup changé depuis 40 ans?
Je dois reconnaître que je m'étais trompé et qu'elle se développe plutôt bien et que c'est assez attractif. Alors, je suis pas un assidu des courses féminines à la télé parce que on a heureusement la chance d'avoir beaucoup de courses pour nos coureurs sur les écrans de télévision, mais je regarde quand même les résultats ici ou là. Et oui, il y a eu de réels progrès d'effectuer.
Donc, plutôt positif ce qui est en train de se passer depuis, on va dire, une décennie maintenant dans le vélo féminin, avec l'arrivée aussi, on devrait avoir cette année un Paris-Roubaix au féminin. Et puis des têtes d'affiche, je pense à Audrey Cordon, il y a eu Marion Rousse, il y en a d'autres, Pauline Ferrand-Prévost, ça se développe également en VTT. Beaucoup de jeunes filles françaises à la pointe en ce qui concerne le biclou.
Oui. Si je m'occupais du cyclisme féminin, j'essaierais de partir dans une autre direction. Alors, ça vaut ce que ça vaut.
Écoutons.
Mais je trouve que de trop vouloir calquer le cyclisme féminin sur le cyclisme masculin n'est pas une bonne option. C'est une option de facilité. Alors, je sais que je vais faire crier en disant cela.
Ah, mais je suis d'accord avec toi. On ira un petit peu plus loin dans la discussion. Je pense qu'il ne faut pas faire de Milan-San Remo. La Primavera.
Je pense qu'il faut.
Non, mais
il faut créer quelque chose. Je pense qu'il faut créer quelque chose de proprement féminin pour le cyclisme féminin. Je m'explique. Par exemple, aujourd'hui, dans les grandes villes, le cyclisme masculin ne peut plus y accéder par la lourdeur du barnum du monde masculin.
De l'organisation, de la sécurité. Oui.
Aujourd'hui, il n'a plus sa place au cœur des villes.
Et on va souvent faire des arrivées dans les zones industrielles, là où il y a de la place et du parking.
Et moi, je trouve que le cyclisme féminin... Alors après, ça n'engage que moi, et je vais peut-être faire hurler, on va me dire, mais non, il est con, enfin, c'est n'importe quoi. Parfois, quand je me balade dans le centre-ville, par exemple ici à Puteaux, je me dis, tiens, il y aurait un truc à faire avec le vélo féminin dans les centres-villes. Il y a des rues commerçantes, il y a des belles boutiques, et le côté féminin du cyclisme dans les rues de centre-ville d'une ville, c'est quelque chose qui pourrait
créer une animation dans la ville, ce qui est le vélo à sa base, les courses de vélo.
Qui était le vélo à sa base, mais qui n'est plus aujourd'hui réalisable pour le mastodonte qui est devenu le World Tour. Et je pense que le cyclisme féminin a cette possibilité, cette capacité à aller s'inventer, tout simplement, même pas à se réinventer, à s'inventer dans le cœur des villes. Des courses féminines en pleine ville, je pense que...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Oui, je partage cet avis parce que c'est vrai que on est obligé de délaisser les centres-villes à cause de la grandeur de l'organisation, mais je pense aussi qu'il faut, c'est bien de faire un Paris-Roubaix, mais il faut garder les courses qui étaient les courses originelles du cyclisme.
Le problème quand on fait une course comme la Flèche Wallonne ou Liège-Bastogne-Liège ou Paris-Roubaix au masculin et au féminin, il y a forcément un regard
comparatif
qui va forcément aller vers de la comparaison qui ne sera pas très favorable.
Ah, c'est l'erreur.
Alors que si on crée autre chose avec le cyclisme féminin, on part sur autre chose. Voilà. Ce n'est qu'une...
Non, mais c'est super intéressant. Mais moi, j'aime bien les gens qui secouent le cocotier, qui amènent des propositions. Parce qu'autrement, s'il y a une pensée unique, on se met tous en ligne. Et puis à la fin, il n'y a rien qui sort, quoi. C'est un peu ça l'idée. On va passer à la dernière partie. On l'appelait en attendant Pino. J'imagine que c'est la question qu'on te pose le plus fréquemment quand tu vas chez le boulanger, chez le boucher. Comment va Thibaut Pino ? C'est celle que je vais te poser.
Thibaut Pino, j'espère qu'il va aller mieux dans pas très longtemps, dans les prochains jours, voire semaines. Et on ne désespère pas de le retrouver très opérationnel très vite. Voilà.
J'ai envie d'avoir des nouvelles quand même de la santé. Est-ce qu'il y a eu cette chute ?
La santé...
Est-ce que vous en savez plus ? Parce que 2019... Moi, j'ai bien cherché, on en a parlé ensemble. J'ai toujours pas compris comment il s'était blessé. En 2019, l'année dernière, il tombe à la première étape, il finit l'étape, le Tour de France. Vous faites des examens, il va sur la Vuelta, il est blessé à la Vuelta, il abandonne la Vuelta, et puis là, on voit que le dos va toujours pas. Alors, est-ce que vous avez trouvé l'origine du mal ? C'est ça la question qu'on a envie de
poser. L'origine du mal, c'est la chute, tout simplement.
Oui, mais ça fait mal.
Maintenant,
il faut soigner quoi ?
Il faut se soigner quand on a des traits de fracture. Il faut attendre que les traits de fracture ne soient plus là pour pouvoir reprendre une activité normale. Ce qu'on n'a pas pu voir et identifier l'année dernière sur le début du Tour de France, on l'a vu avec beaucoup de retard parce qu'il y avait des inflammations et qu'au moment des IRM, on ne voyait pas les traits de fracture. On les a vus avec retard, ensuite, plus tard, trop tard. Mais de toute façon, le problème de Thibaut, la chute, si elle avait eu lieu, j'ai envie de vous dire, sur l'étoile de Bessèges ou sur le Dauphiné libéré, on ne se serait certainement pas mis dans la situation où on s'est retrouvé l'année dernière.
Si c'est sur le Dauphiné, il abandonne tout de suite ? Il ne va pas jusqu'à Lyon ?
Je pense, oui, sur le Dauphiné ou n'importe quelle autre course. La seule course où il ne fallait pas être, c'était le Tour de France, en fait, quelque part.
Et en plus, il est tombé sur le Dauphiné qui avait précédé chute qui est peut-être un peu passée inaperçue. D'ailleurs, nous, je me rappelle très bien.
Oui, totalement.
On avait été très critiques, nous, sur la dernière étape du Dauphiné,
mais vous savez,
parce qu'on ne comprenait pas.
Toujours, est souvent très critique avec Thibaut Pinot. Je trouve que…
Pas toujours. Je sais que tu le défends, tu aimes le défendre, mais non, pas toujours.
On lui fait un procès sur son manque de morale, sur ses faiblesses psychologiques qui sont pour moi totalement fausses. Thibaut Pinot, il a quand même eu des moments délicats dans sa carrière. Il a toujours su les surmonter et les appréhender et repartir au combat.
Bah, je suis
souvent, quand
toi,
des coureurs ont des difficultés, ils font un peu bifurquer leur carrière. Lui, ça n'a jamais été le cas. Et je n'ai aucun doute que dès qu'il va avoir récupéré physiquement de sa blessure de l'année dernière, dans les prochains jours ou semaines, on retrouvera le vrai Pinot.
Le Pinot du Tourmalet.
Le Pinot du Tourmalet, vous le retrouverez, parce qu'en plus, il va avoir faim, il va être revanchard. Et je pense qu'au fond de lui, il a cette volonté, cette détermination de démontrer qu'il reste un grand coureur.
Moi, alors, je n'ai jamais remis en cause, en tout cas, la force de caractère hein, de Thibaut. Oui, non, mais par contre, la faiblesse physique de Thibaut, elle questionne. Il y a eu 2019.
La faiblesse physique, je suis désolé, Guillaume, quand tu tombes et tu te fractures.
J'arrête de courir, moi. Je ne vais pas jusqu'à chez moi. Je ne vais pas jusqu'à la planche des belles filles. Si j'arrête à la première étape. Elle est là,
oui,
pour moi, l'erreur.
Encore une fois, le tour est le tour. Le tour était important pour lui, pour nous. Il était aussi important pour lui avec la planche des belles filles qui était son étape de rêve. Tout cela a fait que ça a été difficile de ne pas continuer.
Et ça prouve aussi la qualité du garçon, hein, qui s'est fait mal pendant 3 semaines pour être au rendez-vous qu'il avait fixé aux siens, puisqu'il arrivait chez les siens, entre Lure et la planche des belles filles. Il y a une question qui arrive, j'allais te la poser, mais elle est là. Et si ça va mieux? Et si ça va mieux très vite? Et si ça va mieux avant le Tour? Est-ce qu'on a une chance de voir Thibaut Pinot au Tour de France? Pourquoi pas? Ou à la Vuelta? Ou pour l'instant?
Je vais être très calme et très direct. D'abord, la première chose, c'est de retrouver la plénitude des moyens. Et en fonction de ce qui se présentera devant nous au niveau du calendrier, on avisera le moment venu. Mais il y a une chance sur 1 million pour qu'il soit au départ du Tour. Voilà.
Une chance sur 1 million. C'est-à-dire que tant qu'il y a douleur à haute intensité…
Je veux dire par là qu'on ne va surtout pas se mettre un compte à rebours dans la tête.
Ça serait trop dangereux. Pour l'instant, il y a d'autres choses à gérer.
Ce serait une grave erreur.
Bon. Et l'état d'esprit, Thibaut, tu l'as eu?
Je l'ai eu, je l'ai vu. Il est serein et déterminé.
Serein et déterminé. Il y a Blaise Chauvière qui vient de nous rejoindre. Il y a beaucoup de monde. On nous dit, est-ce qu'il a le temps de travailler, Thibaut, avec cette douleur? Est-ce qu'il peut faire du vélo? Est-ce qu'il travaille, par exemple, le chrono, sa position? Comment il fait en ce moment? Parce que là, on a la douleur, donc il ne peut pas borner. Est-ce qu'on travaille le physique? Est-ce qu'il y a une rééducation qui est entamée, un renforcement musculaire?
Là, on est dans la phase de gestion, on l'espère tous, de manière définitive, de la situation de la blessure. Ensuite, il y a eu toute une période d'entraînement jusqu'au Tour des Alpes qui lui avait permis d'avoir une bonne condition physique. Donc, la condition physique, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas optimale, mais elle n'est pas mauvaise. Et on a une base de travail qui devrait permettre à Thibaut de repartir dans des conditions plutôt bonnes assez rapidement.
Mais donc, pas de travail spécifique en ce moment?
Pour le moment, on est axé sur la guérison et quand on en aura terminé avec la guérison, on repassera aux choses sérieuses à bicyclette.
Valentin Madouas, pas mal de questions sur le petit Madouas. Il en est où? Est-ce qu'on a une chance de le voir sur le Tour de France, Valentin Madouas?
Alors, il y a une vraie chance de le retrouver sur le Tour de France. Il
ça
est en stage,
chez lui, hein.
Plus dans ce moment.
Madouas, Godu, les Bretons.
Il est en stage avec Godu et Armirail du côté de Tahiti.
Ouais, donc c'est bon signe. Stage en altitude à cette période de l'année, c'est direction le Tour normalement pour les trois. Bruno Armirail qui n'est pas breton, contrairement aux deux autres, lui il vient du sud-ouest de la France. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quand il va gagner la Vuelta, il montrera que c'est un crack. Ça c'est Nico, ouais, il t'a déjà mis Thibaut Pinot au départ de la Vuelta. Et dis-le Witouz, est-ce que c'est l'avenir? Coureur qui se fait remarquer dans les catégories de jeunes. Est-ce que Groupama FDJ a un œil sur Eddy le Witouz?
On a plus qu'un œil.
Non?
On a plus qu'un œil.
Plus qu'un œil, mais il n'y a pas...
Si, il sera chez nous l'année prochaine.
Voilà, non, mais je crois que je le savais un petit peu, donc je voulais te l'entendre dire. Eddy le Witouz rejoindra la Conti.
Exactement.
Et dit que nous, on a découvert sur la piste. Hein. Ça doit être quelque chose qui te fait plaisir, toi, de voir des coureurs qui font
la
pas
piste,
que...
La piste, la route et petite info, il fera aussi du cyclocross l'hiver prochain.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas mettre de plus. On va revenir aux époques Souboire-Renazé, là, d'avant stage. Tu vas remettre les Conti un petit peu sur les manches de Coupe du Monde?
Non, pas les manches de Coupe du Monde, mais la Groupama FDJ va faire un retour à travers les jeunes dans le cyclocross.
Ah, ça, c'est intéressant.
Avec quelques coureurs, des routiers vers le cross.
Ah, j'en connais un qui va aimer ça, ton copain de Renazé, tu sais, de Ballot, là, le petit village à
Ouais.
côté. Lui aussi, il aimait ça, c'est Jacky Durand. Qu'est-ce que j'ai comme autre question? Un avis sur Rémi. Alors, je ne sais pas de quel Rémi on parle. Rémi Cavagna, j'imagine. Rémi Cavagna qui est toujours ce soir cinquième du classement général de la Vuelta, le champion de France du chrono. Est-ce que c'est quelqu'un que tu aimerais avoir dans ton équipe? Est-ce que c'est
Ah, je crois
possible?
qu'il est trop tard pour moi pour l'avoir.
Fini?
Trop tard.
C'est-à-dire trop tard parce que trop cher maintenant qu'il a
Sans
montré.
doute trop cher et trop tard. Nous, on est axé sur nos coureurs et je pense que ce sera difficile à réaliser pour nous.
C'est-à-dire aujourd'hui, les transferts vont se faire par la Conti. On va former, on va pas les faire des coups pour aller chercher une
Si, bien
star.
sûr, si, 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 si. Non, non, on
Si?
ne s'interdit pas d'aller recruter des coureurs à l'extérieur. D'ailleurs, on en piste quelques-uns en ce moment. Mais sur un certain profil de coureur, on essaie de les formater, de les développer chez nous.
Vous pistez quoi? Des grimpeurs,
Bah,
des
écoute, je ne vais pas
sprinteurs,
tout te raconter.
des ah bah, un peu, un petit truc, tu
Non,
passes
non,
par
non.
un biscuit, un petit
Non,
truc.
non, non, puis il faut respecter les gens là où ils sont en ce moment.
Oui, moi je peux t'en raconter deux, trois, mais tu dois en connaître. Hein. Il y a déjà des contrats qui auraient été signés. Apparemment, j'ai déjà deux, trois noms à te donner.
Peut-être, peut-être.
Vlasov, il restera pas chez Astana, tu verras. Il va prendre la direction de la Grande-Bretagne, apparemment. Ça t'étonne aussi, ça. Hier, on disait,
Oui.
Le cycliste se footballise. J'aime pas te dire
Oui,
ça.
je suis un peu.
Mais les contrats, et puis cette image, moi, j'ai pas compris. Hier, Ghana avec Moscone sur le vélo. Ah, comme ça, comme les footeux, là. Comme s'ils partageaient un truc incroyable en masquant ce qu'ils sont en train de se dire devant la caméra.
Non, c'est pas terrible non plus, mais moi je trouve un peu dommage que dès le, on est à peine dans le début de saison, c'est-à-dire en mars-avril, on a déjà des contacts avec des propositions de coureurs et autres. Je trouve qu'il faut laisser un peu de temps au temps dans une saison pour permettre aux coureurs de s'exprimer. Et si on est déjà en train de recruter des coureurs au mois de mars en se disant au mois de mars, lui, on va pas le garder, c'est qu'on s'est quelque part, on s'est aussi trompé.
Et les coureurs qui ne vont pas au bout de leur contrat, ça aussi c'est la nouvelle mode. Hirschi qui pète son contrat pour gagner 4 ou 5 fois plus, ça on ne le voyait pas
C'est
avant.
pas terrible non plus, je suis pas dans ce type-là.
Ça te fait peur? Ça te fait peur que ça devienne la mode et
Non,
que.
non, 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 ça me fait pas peur. Chez nous, il y a un contrat. Un contrat, c'est un contrat, point. Dans les deux sens.
Il y a Lionel qui voudrait savoir est-ce que tu as un œil sur Warren Barguil qui arrive en fin de contrat, puisque on essaye de chercher un peu. Est-ce
La
qu'on.
Barguil, c'est un beau coureur, mais comment dire, je l'ai loupé plein de fois.
Ah, donc ça s'est
Mais
fait, t'as essayé,
là.
t'es parié.
J'ai essayé plusieurs fois, mais ça s'est jamais réalisé. Je vais te raconter une histoire. Il y a un coureur, une fois, il voulait venir dans l'équipe. On voulait le prendre. On était d'accord sur le contrat, mais j'avais besoin de 8 ou 10 jours pour régler je ne sais plus quoi en interne, parce que, je me sépare d'un autre coureur. Enfin, je ne sais plus exactement ce qui s'était passé. C'est vieux, hein, c'était il y a une vingtaine d'années.
Je suis en train de chercher le nom du mec, mais tu vas me le donner.
Et ben, tu veux savoir, le
Bah
coureur n'est jamais venu chez nous.
ça doit être énorme,
Ça ne s'est
20
jamais
ans.
réalisé. Ça ne s'est
Armstrong?
jamais réalisé. Et parfois, on est en contact avec un coureur en dernière minute et en quelques heures, hop, le recrutement se fait.
C'était qui?
Donc, c'est.
Un Américain?
Non, non.
Non, bah, tu peux nous dire,
Ah
20
non, non, non,
ans.
non, 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 c'était un coureur français. Non, non, non.
Il est retraité là, on peut y aller, 20 ans.
Non, non, ben, il est toujours dans le milieu.
Bon, ben, je vais demander, je balancerai ça à l'antenne. Je vais m'enseigner ailleurs. Un mot sur Bardet. On voudrait savoir un petit mot sur Bardet. Qu'est-ce que tu penses qu'il peut faire sur le Giro d'Italia, Romain Bardet, qui a changé d'équipe et qui fait partie des rares coureurs qui ont tenté l'aventure à l'étranger. Ça se fait pas beaucoup chez les Français.
Oh, ça se fait quand même un peu plus que ça ne s'est fait à une époque.
Ouais, ça se fait plus. Mais ce qui se fait plus, c'est que c'est les étrangers qui viennent en France par rapport à une époque. Parce que
Ouais,
les
peut-être.
contrats sont bons, parce qu'il y a une bonne sécurité sociale, parce qu'on gagne bien sa vie, parce qu'on est protégé, parce qu'il y a beaucoup d'équipes aussi.
Oui, aussi. Bah, je pense que Bardet, il avait envie. Enfin, je le connais peu, hein, mais ce que je ressens du bonhomme, c'est que c'est quelqu'un qui a envie de s'enrichir autrement que par la course et le sport. Il a envie de se développer au niveau humain, il a envie d'apprendre une autre langue, il a envie de culture étrangère. Donc, je suis pas du tout surpris qu'il soit parti dans une équipe comme celle où il est aujourd'hui.
Je crois que c'était une volonté hein, de Romain de découvrir, d'avoir à un moment donné une aventure à l'étranger. Je crois qu'il aurait bien aimé à l'époque aller à la BMC, mais la BMC n'existe plus. Il a souvent réfléchi, il voulait, ça c'est important quand même, une équipe MPCC, Romain Bardet. Tu auras remarqué, j'imagine, ça dans son choix.
Oui, bien sûr.
Est-ce que le MPCC ne crée pas un cyclisme à deux vitesses aujourd'hui encore, Marc Madiot?
C'est pas le MPCC qui crée un cyclisme à deux vitesses, je suis désolé.
Ouais, moi je suis désolé, si on enlève le MPCC, tout le monde aura les mêmes règles.
Alors, on peut aussi inverser les choses. C'est peut-être les autres qui devraient s'inspirer du MPCC.
Ouais, mais est-ce que tu penses vraiment qu'on va obliger...
Bah, c'est ce qu'on devrait faire.
Ben voilà, parce que M. Lapartien a fait beaucoup de choses. Mais je me rappelle que quand il avait pris les...
Alors, M. Lapartien, que je soutiens, promis beaucoup de choses.
A promis beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Il a promis beaucoup de choses sur les corticoïdes.
Il a promis beaucoup de choses. Et ça, j'attends dans les prochaines semaines la réalisation des promesses qu'il a faites. Il s'est engagé à les tenir. Donc,
et notamment sur les corticoïdes.
Entre autres.
Tu penses que... Bah, parce qu'aujourd'hui, il y a clairement un usage des corticoïdes dans le vélo qui n'est pas le même selon si on est au MPCC ou si l'on n'est pas au MPCC. Parce qu'après, tout le monde parle de dopage. Il faut rappeler que l'usage que font les garçons qui ne sont pas au MPCC, c'est dans la loi. C'est dans le règlement. Le MPCC va plus loin que les lois antidopage, plus loin que les lois antidopage des autres sports, hein, où dans certains sports, les récupérations au glucose sont devenues partie courante alors qu'on n'en fait pas. Les infiltrations, je ne vous en parle même pas, on entend les tennismen qui jouent des demi-finales de Grand Chelem et qui nous disent oh, « ben, moi j'ai fait ma petite infiltre avant la demi-finale, tout va bien ». Ça, c'est interdit en vélo.
Oui, et heureusement.
On va y arriver. On va y arriver à avoir les mêmes règles pour tout le monde.
Moi, je fais confiance à Lapartien. Encore une fois, quand il s'est présenté aux élections pour être élu président du CI, je me suis largement engagé à le soutenir. Donc, je ne désespère pas qu'il parvienne à ses fins. Alors, je sais que pour lui, ce n'est pas facile. Hein. Les choses ne se réalisent pas forcément en un claquement de doigts, mais je souhaite vivement qu'il mène à bien toutes les propositions qui avaient été faites à l'époque.
On dit que c'est Thomas Voeckler qui, à 20 ans, aurait dû signer à la FDJ. Je ne sais pas, je suis encore en train de chercher moi, ton type de...
Non, c'est pas lui.
Dernière question et après je t'embête plus. Le nouveau règlement, interdiction des positions Mohoric, position aussi du contre-la-montre.
Bonne décision. Oui.
Pourquoi?
Parce que le problème, ce n'est pas tellement les coureurs qui le font aujourd'hui, c'est les gamins qui regardent. Moi, quand j'étais gamin, je regardais les courses à la télé. Quand je voyais Merckx et Ocagna, j'essayais de me mettre dans la même position sur le vélo. Donc, j'imagine que les mômes d'aujourd'hui avaient tendance à se mettre dans les mêmes situations qu'un certain nombre de coureurs, notamment dans les descentes. Et c'est extrêmement dangereux. Donc, ne serait-ce que pour cela, c'est une bonne décision qu'a prise l'UCI, qui n'en prend pas toujours. Mais là, c'était une bonne décision que d'interdire ces positions extrêmement dangereuses. Alors, certes, bien maîtrisées par les pros, hein, il n'y a pas de souci avec
pas
ça.
Tous.
Mais le problème.
Les plus jeunes sont plus à l'aise. Hein. On voit que les anciens ont un peu de mal dans les descentes.
Il ne faut pas jouer avec ça, quoi. Voilà, c'est tout. Tu sais. Aller voir un coureur à l'hôpital quand il est grièvement blessé ou appeler la famille d'un coureur qui est grièvement blessé, c'est pas ce qu'on aime le mieux dans notre boulot. Donc, tout ce qui va dans le sens de la sécurité, je suis pour, même quitte à passer pour un vieux ringard.
Ouais, mais on peut le comprendre. Hein. Il y avait Marc Sarraud qui était encore chez toi l'année dernière, qui avait été pris hein, dans la chute. Avec
exactement. Et quand tu es obligé de prendre ton téléphone, quand tu es obligé de prendre ton téléphone pour prévenir la famille que le coureur est à l'hôpital et qu'il est gravement touché, c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique à faire.
Et les bidons?
Je suis en totale opposition avec notamment les jets de bidons au public. Je considère que quand le bidon est jeté dans la nature et qu'il n'y a pas de public, là oui, il faut sanctionner, il faut mettre des amendes, voire mettre les gens hors course, pourquoi pas, potentiellement. Mais mettre des amendes et mettre le coureur, comme on l'a fait avec le coureur d'AG2R sur le Tour des Flandres, ça c'est de l'excès de zèle. Je considère que les gens se battent pour récupérer des bidons. C'est un bidon de coureur sur le bord de la route, c'est un Graal pour le public, pour le gamin, pour le gars qui fait du cyclo le dimanche matin. Et ça, il faut préserver ça, il faut conserver ça. C'est quelque chose d'important. Le lien avec le public est quelque chose d'important. Et les bidons proposés au public sur le bord de la route par les coureurs, il faut conserver ça, il faut revenir en arrière sur cette règle-là. Et ensuite, il y a un autre souci avec la réglementation sur les bidons. Moi, je veux bien qu'on rapporte les bidons au véhicule. Et comment on va faire quand il va faire 40 degrés à l'ombre ?
Qui est deux bidons par
demi-heure. On va être dans une étape de montagne. Comment on va faire pour ravitailler les coureurs ? Et comment on va faire pour récupérer les bidons ? Déjà, ça n'est pas simple derrière le peloton, dans le Tour de France notamment, tu le sais bien. Il y a les 22 équipes qui sont les unes derrière les autres et tout le monde appelle et tout le monde veut ravitailler en même temps. Si en plus d'aller donner les bidons, il faut récupérer les bidons, je ne sais pas comment on va faire. Hein.
Non, ça va être trouver des solutions.
Ce sera peut-être moins dangereux au niveau du peloton, mais ce sera beaucoup plus dangereux derrière.
Mais on est d'accord que ce n'est peut-être pas la bonne solution, et en tout cas d'interdire les coureurs de jeter le bidon public. Après, pas mal de joueurs...
Jeter les bidons dans la nature quand il n'y a personne, pas de problème. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de match. La décision de sanctionner est la bonne. Mais quand les bidons sont jetés au pied du public ou des coureurs, c'est une grave erreur que de sanctionner ça.
On a participé, je pense comme beaucoup de journalistes, hein, de toute nationalité confondue, à des webinars avec l'UCI. Moi, j'ai posé la question, je ne comprenais pas pourquoi. Et on m'a dit, en fait, c'est un problème de sécurité. Parce que quand tu jettes
ce sera encore plus dangereux.
Ça crée un mouvement de foule.
Oui, mais ce qui sera encore plus dangereux, c'est quand les voitures rouleront sur les gens à l'arrière du peloton pour pouvoir ravitailler et récupérer les bidons.
Quoi qu'il en soit, le vélo ne peut pas faire fi de cette volonté d'aller vers du plus responsable écologiquement, que ce soit au niveau des voitures.
Mais il n'y a pas de souci avec ça, on est d'accord. Il n'y a pas de souci avec l'aspect écologique, les papiers qu'on remet dans une poche sur le côté. Il n'y a pas de problème avec tout ça. Il faut juste être logique.
Et intelligent. Et travailler ensemble à trouver des solutions, parce que le vélo a toujours...
On propose parfois des solutions, mais on n'est pas souvent écouté.
Ouais. Mais on va y arriver. On arrive souvent à trouver des solutions ensemble dans le vélo. Regardez la saison dernière. Il y a beaucoup de sports qui se sont arrêtés.
Oui. Ne désespérons pas.
Je désespère pas. En tout cas, je désespère pas te retrouver encore dans Bistro Vélo très très vite. Un grand merci.
J'espère bien.
Marc Madio, ce sera
mais en présence physique. Hein.
Ouais, bah oui, avec de l'eau, hein, toujours.
Ouais,
la semaine prochaine, ce sera un copain à toi. Tu connais bien, un peu rivaux. Vincent Lavenue, un autre grand patron du cyclisme français, le patron de l'équipe AG2R Citroën. Et puis, si tout va bien, on aura Cédric Vasseur la semaine d'après. Comme ça, on passe en revue pendant le...
On passe les uns derrière les autres. Alors.
Voilà. Mais on a commencé avec celui qui a le plus de victoires. On le fait dans cet ordre.
Ah, t'es gentil. Merci.
Grand merci, Marc.
Ça fait plaisir.
À très vite.
Ciao.
Un gros bisou.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.